est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
Je travaille la nuit, je monte à cheval le jour, je joue au billard le soir, je dors le matin. C'est toujours la même vie. George Sand, dans sa correspondance. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je ne reçois pas un ou une invitée, mais deux invitées, deux femmes, deux féministes, deux Georgettes. L'une est docteur, l'autre est journaliste. Cette semaine, je reçois Anne Lazare et Aurélie Louchard du collectif Georgette Sand. Alors, vous pouvez suivre les Georgettes sur Facebook et Twitter, et puis, il y a leur site www.georgettesand.org. Pour ma part, c'est dans un appartement du 17e arrondissement de Paris que j'ai rencontré Anne Lazare et Aurélie Louchard pour les Georgette Sand. Et ce qu'elles ont à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Anne Lazare.
Bonjour.
Bonjour Aurélie Louchard. Bonjour. J'aurais pu dire aussi bonjour chère Georgette, puisque vous faites partie du collectif des Georgette Sand. Alors, votre logo, c'est le portrait de George Sand par Auguste Charpentier. Ce portrait, il date de 1838, aujourd'hui il est conservé au musée de la vie romantique à Paris. Sauf que vous, George Sand, eh bien, elle a du violet à lèvres, elle a un gros nevers dans les cheveux, et puis elle s'appelle Georgette et pas Georges. Et du coup, il y a une question, vous la posez sur votre site internet et je vous la pose. Faut-il s'appeler Georges pour être pris au sérieux?
On n'a pas à s'appeler Georges pour être pris au sérieux, mais malheureusement, aujourd'hui, il existe encore pas mal d'inégalités, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine culturel, dans le domaine des médias. Et c'est un peu l'objectif du collectif, c'est d'essayer de remettre les pendules à l'heure, hein, et de rétablir un peu de vérité et d'égalité.
Alors, pour être pris au sérieux, est-ce qu'il faut, Aurélie, avoir un ou une ministre aussi derrière soi, Aurélie ?
Oui, je pense. Et puis surtout, il faut éviter d'avoir une ministre qui est reléguée à la famille, ce qui est quand même encore... symboliquement, c'est quand même un retour en arrière d'avoir les femmes qui soient liées uniquement à cette dimension. C'est,
voilà, parce que donc Laurence Rossignol, actuelle ministre, est d'abord ministre de la famille, des enfants et du droit des femmes.
Voilà.
Et puis, droit des femmes en dernier, en plus.
Oui, c'est problématique. Enfin, c'est réduire encore la femme à la dimension du foyer, de la famille. Enfin, c'est... À la limite, si on le met en secondaire, pourquoi c'est rattaché à ce ministère-là ? Voilà. Admettons, on fait des coupes budgétaires, il faut qu'il y ait moins de ministères, on veut un gouvernement resserré. Pourquoi nécessairement la famille et les enfants ?
Alors,
je pense que ça en dit beaucoup.
Auquel ?
Bah, ça aurait pu être l'industrie, par exemple, ouais. Pourquoi pas ?
Pourquoi pas l'économie ?
Et ça aurait été, du coup... un contre-pied à cette image qui est donnée là. En tout.
Ouais, j'ai le sentiment que politiquement, il y a vraiment quelque chose où ils considèrent que c'est devenu quelque chose d'une certaine manière politiquement correct. C'est-à-dire que pouvoir travailler un petit peu un moment en politique, ce que j'entendais, c'était au moment où un gouvernement était composé, c'est on est obligé de mettre autant de femmes que d'hommes et qu'il y ait en gros des minorités visibles, j'utilise des guillemets, parce que la droite l'a fait avant, on peut pas faire moins bien. Il n'y a pas de vraie volonté de se dire c'est utile, c'est important et c'est juste normal qu'en 2016 il y ait autant de femmes ministres que d'hommes ministres et que les questions liées aux femmes ne sont pas des questions à reléguer.
Alors on va quitter la politique, on va quitter 2016, on va quitter les titres des ministères pour l'année 1837 si vous le voulez bien toutes les deux. Pour une lettre. Le destinataire de cette lettre, c'est un certain Frédéric Girard, avocat et homme politique de Nevers, et je vous lis un extrait. « Le monde trouve fort naturel et fort excusable qu'on se joue avec les femmes de ce qu'il y a de plus sacré. Les femmes ne comptent ni dans l'ordre social, ni dans l'ordre moral. Oh, j'en fais le serment, et voici la première lueur de courage et d'ambition dans ma vie. Je relèverai la femme de son abjection, et dans ma personne et dans ma vie. et que l'esclavage féminin est son Spartacus, je le serai ou je mourrai à la peine. L'auteur de la lettre, vous l'aurez certainement reconnu, c'est George Sand. En 1837, Anne, le féminisme, c'était un combat, et aujourd'hui ?
Bah, ça en reste toujours un, et c'est peut-être ça qui est un peu navrant, c'est qu'on soit toujours obligé à défendre nos droits, et que cette lettre, elle a été écrite en 1837, elle est toujours actuelle. Il y a pas mal de choses à changer dans la vision de la société. En gros, on vit dans une société qui est plutôt patriarcale, et ça a été depuis la nuit des temps. Et tant qu'on sera dans cette société, enfin dans ce mode de fonctionnement-là, il y aura un dominant et un dominé. Le dominant, ça sera l'homme blanc. Les dominés, ça sera les femmes, les minorités.
Tous ceux qui ne sont pas voilà. Les hommes blancs.
Voilà.
La réalité, c'est qu'on est, en général, on est aveugle à ses privilèges. De la même manière que moi, en tant que femme blanche, j'ai des privilèges qu'on n'ont pas des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes maghrébines. Et spontanément, en étant éduquée dans une société blanche en France, c'est pas quelque chose que je vais voir. De la même manière, un homme blanc, c'est pas forcément qu'il est méchant et horrible et égoïste, c'est juste que quand on a ses propres privilèges, oui. Ben en général, on y est aveugle, on le voit pas concrètement. J'ai une amie à qui ça arrivait, quand elle prononçait son nom avec sa consonance normale, on lui disait que l'appartement n'était pas disponible, et elle a déjà essayé de rappeler en prononçant son nom un peu différemment avec une consonance qui faisait plus française, et là, d'un seul coup, l'appartement était disponible. Je donne cet exemple-là parce que la question du racisme est peut-être plus parlante pour les gens que la question du féminisme, mais il faut garder en tête qu'il y a plein d'hommes qui vont se dire « mais c'est bon, en France, les femmes, elles ont un statut, ouais. Maintenant, c'est à peu près l'égalité ». Mais en fait, au quotidien, ils ne le voient pas parce qu'ils ne subissent pas de discrimination, vu que de fait, ce ne sont pas des femmes, mais ce n'est pas parce qu'ils ne les voient pas qu'elles n'existent pas.
Et d'ailleurs, sur votre site, vous liez... ces deux thématiques, antiracisme et puis féminisme, c'est lié.
Oui, c'est un combat pour l'égalité, et le combat pour l'égalité, il est aussi bien antiraciste que féministe. Et concernant la campagne L'homme féministe, on voulait aussi rappeler que c'est un combat.
Alors, un mot parce qu'on en parle, votre campagne L'homme féministe, c'est un parfum fictif que vous avez lancé en janvier dernier, une vingtaine d'affiches avec en noir et blanc, chacune mettait en scène un homme, jeune, vieux, blanc, noir, gay, hétéro, etc. Avec à chaque fois un message, avec à chaque fois assez de parodie et d'humour pour mettre un petit coup aux pubs pour parfums qui sont pas forcément très très fines quand il s'agit de genre et d'identité. Et puis d'ailleurs, toute la campagne, je le dis pour nos auditeurs, elle est disponible à l'adresse suivante, l'homme féministe, sans espace ni apostrophe, .tumblr.com. Et j'ai aussi relevé, qui accompagnait cette campagne sur votre Tumblr, cette citation qui m'a bien plu. « Le féminisme est l'essence de celles et ceux qui se mobilisent en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, on en a parlé, bouscule au quotidien les espaces traditionnellement attribués, invente de nouveaux codes et font bouger les frontières. » Ça fait bouger les frontières, une campagne avec un faux parfum. Aurélie ?
On espère, déjà, tout simplement, en cassant un peu justement cette espèce d'imaginaire déjà on se dit toujours que féministe ça se conjugue seulement au féminin, donc une féministe et cette espèce d'imaginaire la harpie mal baisée en gros qui s'épile pas, et enfin cette espèce de, et en fait quand vous discutez avec les gens de féminisme, c'est marrant, souvent quand vous leur dites que vous êtes féministe, ils se braquent un peu, et si vous enlevez le nom, et je pense que c'est important de pas enlever le nom parce que faut mettre des mots sur les choses, mais par exemple, la taxe tampon, il y a eu la question du fait que la taxe, donc les tampons et serviettes hygiéniques étaient taxés à 20% et non à 5,5 comme des produits de première nécessité, alors que par exemple le coca est taxé à 5,5. Voilà, globalement, cette question-là, quand vous en parlez avec, honnêtement, je pense plus de 90% des gens, ils vont être d'accord pour vous dire c'est n'importe quoi, pourquoi c'est pas un produit de première nécessité. Sur des choses concrètes comme ça, je pense que les gens, la plupart des Français sont complètement raccord sur les questions d'égalité homme-femme, sur... Moi, chaque fois que je discute avec quelqu'un de la question de l'inégalité salariale, que les femmes soient en moyenne payées 20% de moins à compétences et diplômes égales que les hommes, vous trouvez quand même pas grand monde qui va vous dire c'est complètement normal. Par contre, à partir du moment où vous mettez le mot féminisme, là, d'un seul coup, ah non, je suis pas féministe. Il y a un espèce de truc où ça fait un blocage. Et donc, un des rôles de cette campagne, c'est notamment de montrer que le féminisme a plein de visages. Alors oui, on aurait pu mettre des différents visages de femmes, mais là, on avait aussi envie de montrer que les hommes avaient leur rôle à jouer, et de la même manière que pour les questions antiracistes, où ça choquera personne qu'il y ait des blancs dans des manifs contre le racisme, pourquoi il n'y aurait pas des hommes dans des manifs féministes ? Enfin,
il n'y en a pas assez, des hommes qui sont féministes, Anne ?
On est quand même une grande majorité de femmes. C'est un combat qui devrait être mixte. C'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Dans notre collectif, ça dépend. C'est important qu'il y ait différents courants qui représentent les différents.
Nous, on souhaiterait atteindre, enfin, qu'il y ait une certaine mixité, en tout cas dans le collectif Georgette Sand. Les hommes doivent se sentir concernés aussi. On n'est pas obligé de correspondre à l'image de l'homme qu'il existe aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a un peu choisi de détourner les pubs pour parfums, parce que les pubs pour parfums véhiculent cette image, une image masculine qui est ancrée dans l'imaginaire de tout le monde, comme quoi l'homme, c'est quelque chose, enfin c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est quelqu'un qui domine et qui prend des décisions, donc c'est le maître du monde, voilà. C'est un peu ce que véhiculent toutes les pubs pour parfums qu'on voit à l'heure actuelle, c'est-à-dire le gars en costard dans sa super BMW qui va dans sa villa au bord de la piscine où l'attend Angela en maillot de bain prête à lui sauter au cou et lui dire « je t'aime, tu es trop beau », voilà. Et l'idée, c'est de dire qu'il existe différentes masculinités, qu'il n'y a pas forcément qu'une seule masculinité, et de prendre en compte que du coup, eux aussi subissent, entre guillemets, les stéréotypes de genre. Et ça serait bien de se défaire de stéréotypes pour pouvoir accéder à une meilleure égalité, puis à une plus grande liberté.
Et les stéréotypes, il y en a beaucoup, parce que si on reprend un peu les messages qui accompagnent ces affiches, j'en ai relevé certains. Adrien S, j'ai souvent envie de dire aux chercheurs de mon labo que c'est ma mère qui m'a donné le goût des maths.
Adrien, dont on parle, le poste qu'il a eu, là, il est expatrié. Et il y avait une femme qui était aussi en concurrence avec lui, et ils ont préféré le prendre lui, et il l'a su après, parce que c'était un homme, et que c'était en Inde, et qu'il considérait que ça serait plus simple. Ce qui est peut-être vrai, mais peut-être qu'ils auraient pu juste demander à la femme comment elle sentait les choses. Plutôt que de décider pour elle et de partir du principe.
Et on peut prendre conscience qu'il existe des inégalités. Je pense à tout âge, que c'est pas quelque chose qui se fait que à la petite enfance. Je pense que ça peut être n'importe qui du jour, enfin pas du jour au lendemain, mais de se réveiller et de se dire « ah ben ouais, c'est vrai ». Effectivement, c'est pas normal que je gagne 20% de plus que ma collègue féminine. C'est pas normal que j'ai eu le poste parce que je suis un homme et que ma collègue n'ait pas eu le poste. C'est pas normal que moi, quand je rentre tard le soir, je me pose pas la question de comment je vais rentrer, de comment je suis habillée, de est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui me suit. Ce que se pose une femme en rentrant tard le soir à chaque fois. Enfin voilà, c'est juste une prise de conscience.
Et puis nous, chez Georgette, on aimait bien l'idée de... un peu chacun fait sa révolution à son rythme, qui est quelque chose qui est assez valable aussi en écologie, on trouvait que ça se croisait là-dessus. Chacun va faire les choses à son rythme, prendre conscience qu'il y a des choses... Les déterminismes sociaux, ça a du bon aussi, mais on en a tous plein, et donc ça se fait petit à petit. Déjà, prendre conscience des choses et se dire « Ok, en fait, si je fais une remarque là-dessus, c'est sexiste, il faut que j'arrête de le faire, et pourquoi je le fais ?» Voilà, l'idée aussi de mettre en avant ces hommes-là, c'était aussi de faire prendre conscience, parce qu'on a, c'est des hommes qui, spontanément, sont pas, sont pas militants nécessairement. Je pense à Youssef qui, il a lâché son boulot, il a pris un congé paternité pour s'occuper de son fils, pour que sa femme puisse avoir une promotion. Et spontanément, je ne sais pas s'il se revendique comme féministe, mais de fait, le choix qu'il a fait, ça l'est.
Il saute dans la rue et il est prêt à recommencer son congé paternité.
Tout à fait. Et c'est vrai, c'est pas de la propagande. Les hommes, en gros, quand ils font ce genre de choix, ils ont que des retours positifs. C'est-à-dire, ce qu'ils nous racontaient en plaisantant, et il y avait un Kevin qui a aussi été pris en photo, racontait la même chose, c'est que quand ils vont au parc avec le bébé, toutes les femmes leur sourient, c'est le super-héros, quoi. Alors qu'une nana qui fait ça, concrètement, c'est juste normal, voire elle est encore à la maison à faire un truc pas intéressant. Le mec, c'est bon, on lui met des lauriers, et je trouve ça très bien qu'il le fasse. Et c'est, d'un côté, c'est positif, parce que ça va donner envie à d'autres hommes de le faire, donc de ce point de vue-là, c'est bien. Mais il y a une espèce de décalage de traitement. Oui, et pareil, oui. Quand il a... Moi, je lui ai demandé comment ça s'est passé quand il a voulu à nouveau rechercher un emploi. Je lui dis comment ça passe auprès des employeurs de dire j'ai arrêté de travailler pendant, je crois, un an et demi ou deux ans, peut-être même,
ouais,
pour m'occuper de mon fils. Bon, alors peut-être qu'il a eu de la chance et qu'il est tombé sur quelqu'un d'ouvert, mais l'homme qui lui a fait passer l'entretien était là, non, mais c'est très bien, vous avez raison, j'aurais peut-être dû faire ça à l'époque. Enfin, du coup, que le côté positif. Alors que concrètement, une femme qui va s'arrêter 2 ans pour travailler, ouais, pour élever ses enfants, je pense qu'elle n'a pas le même retour. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut niveler par le bas, hein. C'est très bien, il faudrait juste que ce soit le même traitement pour les femmes quand elles reviennent d'un congé maternité. Ou...
Alors, une autre parole d'homme féministe, Alix, il écrit « Le féminisme a fait de moi un homme, ce monde est malade d'excès de testostérone ». Alors ce message, je voulais le citer parce que je l'ai trouvé particulièrement fort, peut-être encore plus que tous les autres, en tous les cas, il m'a fait réfléchir. D'ailleurs, j'ai pas mal réfléchi en préparant cette interview, et je me suis rendu compte que finalement, moi, homme blanc, qui pose des questions à deux femmes, en plus au début de l'interview, secret pour les auditeurs, j'étais assis plus haut que vous, il y avait comme ça tout un tas de clichés. Alors du coup, pour essayer de compenser ça, je me suis dit que vous alliez pouvoir m'insulter, ça vous dit ? Alors, de préférence avec des insultes sexy cool.
Ouais.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est, les insultes sexy cool ?
Alors, c'était une des premières campagnes de Georgette Sand. En gros, c'est aussi pour déconstruire les stéréotypes de genre et pour... on s'attaque au langage. Hein.
C'est ça.
Au langage sexiste. En gros, c'est de dire que quand on parle, on a un langage qui nous vient souvent naturellement avec des idées préconçues, des idées sexistes, ne serait-ce que dans la masculinisation, je sais pas si c'est quoi,
oui, oui,
dans la masculinisation de chaque mot et à quel point c'est difficile de féminiser les mots. Hein. Moi, je suis médecin, donc c'est toujours docteur sans E, ouais, plus loin mon nom de famille. Ça sera jamais que docteur avec un E. Hein.
D'accord.
Impossible. Etc, etc. Et ce qui ressort de façon assez flagrante, c'est dans les insultes. Mm-hmm. Quand on insulte les gens, c'est dans 90% des cas des insultes à caractère genré ou sexué ou
souvent,
ou d'orientation sexuelle.
C'est raciste.
C'est raciste, exactement.
C'est misogyne.
Voilà.
C'est homophobe.
Ouais, c'est ça. Ouais. Sale pédé, sale pute, salope, qui est beaucoup plus connoté que salaud. Hein, ouais, un ouais, salaud...
Oui. Il y a toujours...
Salaud, c'est plus neutre, salope, c'est vraiment honneur sexuel, etc.
C'est ça, honneur, c'est exactement.
Bah, puis même ce qu'on utilise au quotidien sans forcément se rendre compte, mais con et putain, ouais, le con, c'est le sexe de la femme, ouais, pourquoi c'est péjoratif ? Enfin, c'est quand même, voilà, c'est quand même fou, quoi.
Alors, du coup, des insultes sexy cool, je vous permets de m'insulter en mode sexy cool, alors allez-y, faites-vous plaisir.
Il y avait gonocoque, il y avait...
Alors attends, gonocoque, ça veut dire quoi ?
Le gonocoque, c'est un germe,
ouais,
qui donne une maladie, bon c'est un peu à caractère sexuel parce qu'on attrape ça lors de maladies sexuellement transmissibles.
Très bien.
Voilà. Mais bon, quand on traite quelqu'un de gonocoque, c'est un peu neutre, hein, c'est-à-dire que c'est ni masculin ni féminin.
Donc c'est selon toi, Anne, je suis un gonocoque, et toi Aurélie ?
Alors moi c'est typiquement le genre de choses que j'ai encore à déconstruire. Typiquement non, mais quand tu dis que c'est une lente révolution, on peut être dans un collectif comme ça et,
ouais,
et c'est difficile à déconstruire les jurons. Hein, mais si, alors moi je le fais plus dans les choses positives, c'est-à-dire
d'accord,
que voilà, en plus moi j'ai un champ lexical qui est, j'avoue, pas très bon parce que j'ai grandi en banlieue, donc j'ai beaucoup d'expressions pas très, que ma mère ne recommanderait pas, ni mon père d'ailleurs,
mais elle n'écoutera peut-être pas l'émission donc.
Mais elle a des couilles, c'est un truc qui spontanément me venait et j'essaye de plus dire ça parce que pourquoi quelqu'un qui ferait quelque chose de bien aurait des couilles, donc je vais essayer de dire c'est pas la moitié d'une gonzesse, par exemple, s'il s'agit d'une femme, ou ce genre, ouais, de choses.
En tout cas, moi, ce qui m'a bien plu sur votre site, dans vos actions, puis je crois qu'on le sent dans cette interview, c'est le côté ludique, joyeux. Vous avez vraiment pas envie de donner une image de... alors qu'il y a de l'engagement, alors qu'il y a des revendications, et elles sont légitimes, que ça soit dans l'agression, que ça soit dans quelque chose de crispé. On est d'accord,
oui,
là-dessus ?
Tout à fait, ouais. Je pense que c'est vraiment l'ADN, voilà, de Georgette Sand, le côté un peu... décaler, enfin essayer
d'apporter de l'humour à ce qu'on fait, d'avoir un second degré et effectivement de trouver des actions qui valorisent les choses Plutôt qu'il... Enfin, on dénonce aussi avec la taxe rose, la taxe tampon, on a dénoncé certaines choses, mais si on le dénonce, on essaie de le faire avec humour et d'avoir un parti pris de rigoler, de faire du second degré.
Ouais, et je pense que c'est à la fois que ça correspond aussi un peu aux gens qu'il y a dans le collectif, voilà. Aux personnes qui sont dans le collectif, où il y a ce côté assez joyeux, et voilà, et après... Je pense qu'aussi d'un point de vue communication, alors on n'est clairement pas dans des trucs à faire des stratégies de communication au long cours, c'est beaucoup plus... je pense que le côté justement culpabilisateur de « Ah, t'es pas féministe » ou « Ah, t'es un homme », et encore une fois, je pense que c'est important qu'il y ait plein de mouvements féministes qui travaillent de plein de façons différentes, parce que s'il y avait que le côté humour, ça serait pas suffisant, mais je pense qu'il y a des gens que ça, tout de suite, ça rebute. Enfin, de la même manière que, je vais refaire le parallèle avec l'écologie, mais dans l'écologie, le côté de juste être dans le catastrophisme, il y a des personnes avec qui ça marche, mais il y a des personnes qui ont besoin d'avoir le concret, des alternatives positives, des choses un peu plus festives, ce genre.
Et c'est bien d'avoir plusieurs visions et d'avoir... Enfin, je pense que tous les collectifs féministes luttent pour la même chose, avoir une égalité entre les hommes et les femmes, sauf qu'on le fait de différentes manières.
Ouais.
Et je pense pas qu'il y ait une bonne manière de le faire ou une mauvaise manière de le faire, il y a juste des manières différentes.
Et voilà, qui se complètent.
Et qui se complètent.
Ouais. Et la vôtre est plus décalée, joyeuse, et ça n'empêche pas qu'il y a de l'engagement, qu'il y a des combats, on va citer des chiffres qu'on peut trouver sur votre site, sur d'autres. En France, les femmes gagnent 24% de moins que les hommes, elles occupent 82% des emplois à temps partiel, sachant, pour donner une petite idée de salaire, que 50% de ces temps partiels, c'est payé moins que 850 € net par mois. Même si ça progresse un peu, il y a aussi beaucoup moins de grandes patronnes que de grands patrons, et d'ailleurs grandes patronnes ça n'existe pas, alors que grand patron c'est aussi une image. Il y a 4 femmes au Panthéon, il y en a 72 hommes qui partagent l'endroit. Alors, avec les Georgette Sand, comme vous n'aviez pas peut-être assez de budget pour faire construire un Panthéon à côté du Panthéon, vous avez ouvert un Tumblr, et le Tumblr, il s'appelle Invisibiliser au féminin pluriel et sans accent .tumblr.com, et on y croise un peu toutes les femmes qui mériteraient d'être au Panthéon. Alors, exercice difficile, mais chacune d'entre vous, une femme qui mériterait d'être au Panthéon, peut-être.
Oh là là. En choisir une seule.
Ah, c'est difficile, hein.
Vous choisiriez un homme qui est à mettre au Panthéon?
Ouais, moi j'aurais des idées, ouais.
Juste mais j'aurais. Seule.
Ah non, mais si on me demande, il y en a qui me viennent, parce qu'il y a aussi des gens avec qui je me sens plus proche. Artistiquement,
on va mettre Georges Sand. Hein.
Bah oui, forcément, voilà. Mais.
Alors, hors de Georges Sand.
La difficulté, je trouve, c'est que justement, on est tellement invisibilisée, et encore, nous on est des femmes blanches, si vous êtes, j'insiste aussi là-dessus, parce que c'est reproché aussi au féminisme, en gros mainstream, d'être un féminisme de femmes blanches de classe moyenne, et la réalité c'est que si on est honnête chez Georgette Sand, globalement c'est plutôt ça quoi,
ouais.
S'il y a des femmes non blanches, non classe moyenne, ou des non-femmes d'ailleurs, qui veulent nous rejoindre, nous serions ravis d'enrichir le collectif d'autres regards, elles sont encore plus invisibilisées. Donc,
et d'ailleurs, sur votre Tumblr, on trouve par exemple la grand-mère du rock'n'roll Rosetta Tharpe, qui était encore plus invisibilisée que Geneviève de Gaulle, qui est rentrée au Panthéon.
Après, est-ce qu'il y a forcément besoin de rentrer au Panthéon? Ça, c'est une.
Oui, c'est notre problématique.
Mais
alors, ma question, quand même. Alors, allez, une femme.
Je crois que j'avais cité David Neal, en fait. Alexandra David Neal. Parce que c'était une exploratrice, c'était la première à être rentrée à Lhasa, qui a voyagé seule et qui a fait pas mal de découvertes, enfin, en tout cas qui a, sur le plan géologie, ethnologie, sociologie, et que c'est vrai qu'en Panthéon on a tendance à mettre de grands écrivains ou de grands scientifiques et donner un peu plus d'importance aux sciences sociales. Je pense qu'elles ont leur place aussi en Panthéon, donc je mettrai Alexandra David Neal. Voilà.
Anne en a trouvé une, Aurélie ou pas?
Du coup, moi je vais rester dans ma lignée plus invisibilisée. Je sais pas, je vais dire Alice Walker ou une féministe, une afro-féministe. Je peux dire Angela Davis, mais c'est un peu plus facile.
Ouais,
en France, elle est assez invisibilisée, mais elle l'est moins. Mais je vais dire Alice Walker, du coup.
Ok. Voilà. Et puis j'invite du coup toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller sur votre Tumblr parce que il y a des féministes encore vivantes. Il y a pas que des sur votre Tumblr, c'est pas le Panthéon. Il y a pas que des femmes mortes. Non. Et puis voilà, on trouve de tous les continents, tous les âges, toutes les professions. Donc ça donne aussi pas mal de culture parce que on apprend comme ça, on découvre des destins, des parcours. Deux questions pour terminer. Leur formulation, elle est simple, la réponse peut être un peu plus compliquée. Pour reprendre le titre de cette émission, absolument essentiel, qu'est-ce qui est absolument essentiel si on veut être féministe ?
Oh. Ouh là là
Féministe, ça veut dire militant, on est d'accord.
Ouais.
Donc, vouloir militer pour le féminisme, c'est vouloir militer pour une égalité et essayer de se rendre compte, avant de lutter, hein, qu'il existe des inégalités.
J'allais dire quelque chose d'assez proche. En fait, moi, je pense que ça serait vraiment d'abord se questionner, parce que se questionner sur ses propres comportements, sur ce qu'on pense, sur les constructions sociales qui nous ont façonnées, celles de son entourage, enfin, parce que personne n'est complètement à l'abri d'être sexiste. Alors après, si on s'adresse aux hommes en particulier, essayer de aussi peut-être plus essayer de penser à plus écouter les femmes et les laisser aux personnes qui sont discriminées ne pas leur confisquer la parole en
exactement
fait.
Et de pas
minorer
ce qui leur arrive
mais je dirais vraiment c'est une question de d'être assez humble en fait par rapport à tout ça et se dire pour moi vraiment l'idée c'est que le féminisme c'est un humanisme donc c'est se dire que enfin on n'a pas la science infuse et réfléchir sur ses comportements et vraiment pas ce truc de moi, enfin, ça a peut-être été utile à certains moments et je pense que ça allait encore parfois, mais le côté pointer du doigt et dire oui, il y a des mauvais comportements, enfin, c'est important de dire quand, voilà, typiquement ce que fait le collectif La Barbe qui intervient à chaque fois qu'il y a des, je sais pas, des sommets ou des événements où il y a exclusivement des experts masculins ou que des hommes, c'est très important de pointer du doigt, hein, mais je veux dire le côté culpabilisateur, en fait, moi, c'est ça. Je trouve que c'est pas très productif et que plutôt que d'être dans un truc culpabilisateur, juste dire à chacun, c'est important de se remettre en question et de réfléchir. Et pour moi, c'est... Voilà, après, c'est mon
et que tout le monde peut être féministe, en fait.
Voilà,
c'est pas quelque chose qui est réservé forcément aux femmes et que... oui, c'est d'abord une prise de conscience.
Oui,
en fait.
Ça se fait pas à pas. Et
ça
se fait pas avoir
soi,
peur.
Ouais.
Et ce serait mieux aussi de pas avoir peur du mot féministe
aussi.
Et de pas se dire que c'est un gros mot.
Et que c'est un extrémisme, parce que c'est pas un extrémisme. C'est quelque chose qui concerne tout le monde et que c'est un joli mot. Voilà.
Alors, je vais vous demander d'autres jolis mots. Dans la vie, Anne, qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
Qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
Dans la vie, ouais.
La liberté, le respect, enfin c'est des trucs bateaux. Hein,
Bah oui, mais bon, c'est ça qui est essentiel. Hein.
Et toi, Aurélie ?
Bah oui, la liberté, l'ouverture d'esprit, la réflexion, l'échange, un vrai dialogue, mais au sens dialogos, les deux logos qui se rencontrent, une vraie discussion, un vrai échange.
C'est ça.
Et finalement, c'est rare et de pouvoir vraiment échanger avec quelqu'un et réfléchir. Et bah, pour moi, ça revient un peu à, pour être vraiment féministe, c'est ça aussi. C'est pouvoir essayer de se mettre à la place de l'autre, de réfléchir et de casser un peu les a priori qu'on peut avoir, même sans s'en rendre compte, sur chaque personne qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est valable aussi bien en termes de féminisme qu'un peu dans tous les domaines, en fait. Essayer de casser les préconçus et avoir de réels échanges.
Casser les stéréotypes, casser les préjugés. Et les nœuds dans les cheveux aussi, ça c'est très important.
Vert et violet.
Vert et violet, de préférence.
On va s'arrêter là, du coup, sur ces nœuds. Merci à vous deux.
De rien.
Merci.
C'est la fin de cette émission, merci pour votre écoute fidèle. Si vous voulez suivre les actions et soutenir les engagements du collectif Georgette Sand, je vous rappelle leur site www.georgettesand.org, deux Tumblr également, l'homme féministe sans accent ni apostrophe .tumblr.com et puis invisibilisé au féminin et au pluriel, bien sûr, .tumblr.com toujours. Vous savez tout ? Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.